Le Mac du Tarn sur CFM, bonjour, bonjour à tous. Jacques en votre compagnie jusqu'à 13h, et ce, exceptionnellement toute la semaine pour une édition spéciale départementale, pour lesquelles la campagne est officiellement lancée aujourd'hui. Si en ce lundi 9 mars, l'actualité dans le Tarn concerne largement Sivens avec le vote vendredi dernier par le Conseil Général sortant d'une modification du projet initial et l'expulsion ce week-end des opposants au barrage de la zone à défendre, les scrutins du 22 et 29 mars prochains représentent un enjeu considérable pour la suite notamment qui sera donnée à ce projet. Juste après le flash actu de midi et demi, retrouvez-moi en compagnie de Jean-Pierre de Testa et Yolande Alibert pour la première des émissions spéciales départementales sur CFM. Tout au long de la semaine, nous recevons l'ensemble des candidats en lice pour le canton Carmaux, Vallée du Sérou. Et ce lundi, M. San Andrés et Mme Stroche de la liste Front de Gauche répondront à nos questions. En première partie du mag, Stéphane Roland par téléphone, rédacteur en chef du magazine d'actualité sur le Tarn, le magazine Tarn Actu, qui dans son troisième numéro, celui de mars, fait un point sur les nouveautés de ce scrutin et les enjeux de ces élections dans le département. Nous parlerons aussi des sujets traités dans ce numéro de mars, dans le dossier à la une qui fait le point sur les avancées de la loi sur le handicap. C'est juste après « Just Want to Get By » de l'Albigeois VIO. You sing to sing, it's so right for you to go out in the back and out. Cause your bill is too high. Cause your bill is too high. Get away, take taxes. You want in the finest asshole, so rocking out some $3 and more. Cause your bill is too high. Yeah. Cause your bill is too high. Move on, take your taxes. Just want to get by. The country, right back in the route to own a city. Because your bill is too high. Because your bill is too high. Move on and take taxes. I just want to get by.
CFM, c'est le MAG, la vie du pays cordais.
Stéphane Roland, bonjour.
Bonjour.
Journaliste et rédacteur en chef du magazine mensuel Tarn Actu, dont le troisième numéro vient de paraître. À la une, un dossier sur le cas de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Accessibilité à l'école, aux bâtiments, à l'emploi, entre autres. 10 ans après le vote au Parlement français de la loi sur l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées, est-ce que les choses ont avancé, Stéphane?
Mais après, les choses ont avancé. Alors, il y a eu des avancées par rapport au moment où cette loi avait été votée. Mais après, surtout, voilà, nous, ce qu'on a voulu surtout voir, c'était donner forcément la parole aux gens concernés. Et eux, ben, voilà, trouvent que même s'il y a des avancées, il reste encore énormément de choses à faire, tant sur le plan de l'infrastructure, que de la mentalité des gens extérieurs.
L'Association des paralysés de France évoque même un retour en arrière. Hein. Où est-ce que ça coince finalement? Est-ce que c'est un manque de volonté politique, un manque de moyens ou des mentalités sclérosées?
Ben après, je pense qu'il y a un petit peu de tout. Après, forcément, les moyens politiques, on le voit sur beaucoup de dossiers. Les collectivités ont de moins en moins d'argent et on leur en demande peut-être de plus en plus. Donc forcément, il faut faire des choix. Ça, c'est sur le plan des moyens. Sur le plan de la volonté, on voit quand même que c'est une loi qui a été votée il y a 10 ans. Donc comme c'est devenu l'ultimatum qui était donné à la fin de l'année dernière, je ne remonte pas à l'année dernière, il avait été fixé bien avant, et on se retrouve alors encore avec des programmes qui sont étalés sur plusieurs années. En fait, au moment où on arrive à la fin de l'ultimatum, les gens disent, ben, on n'a plus le temps de faire, donc il faut encore redécaler. Donc, voilà, on repart un peu à zéro par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on repart à nouveau sur quelque chose ou quelque chose qui était censé être obligatoire avant la fin de l'année dernière. Et donc, du coup, d'avancer dans ces cas-là, eh bien, on redonne un nouveau délai aux collectivités, aux mairies, à tous ceux qui gèrent des bâtiments recevant du public.
Et au niveau des mentalités, est-ce que dans les confidences que vous avez recueillies ou les avis que vous avez pu avoir, on pressent un changement du regard de la société face aux personnes en situation de handicap?
Alors, les personnes que j'ai pu rencontrer pour ce dossier, ils constatent encore des difficultés par rapport à ça. Ils estiment que le regard qui est porté sur eux n'est pas forcément très favorable. Après, c'est vrai qu'il faut aussi relativiser par rapport à ça. On est dans une société où, de toute façon, aujourd'hui, tout le monde est senior. Donc voilà. Donc effectivement, eux le voient par rapport à leur handicap. Mais, tout un chacun peut aussi constater que, quand quelqu'un tombe dans la rue, il n'y a pas 50 personnes qui vont aller vers elle pour l'aider à se relever ou prendre ses nouvelles. Si vous faites tomber vos courses, voilà, comme l'exemple de la personne handicapée qui me dit, voilà, j'ai fait tomber mes courses, personne m'a aidé pour les ramasser. Mais bon, voilà, c'est malheureux que ça lui arrive. Mais peut-être que si c'est arrivé à vous ou à moi, personne ne m'aiderait non plus. Voilà. Donc, il faut aussi voir, voilà, où est la part d'ignorance par rapport au handicap. La part par rapport à ce phénomène de société qui fait qu'aujourd'hui chacun s'intéresse à lui. Après, c'est vrai qu'ils ont quand même en plus de difficultés physiques liées à leur handicap, il y a ce regard qu'ils doivent affronter. C'est une épreuve presque supplémentaire par rapport aux épreuves matérielles quand ils ont à monter ou descendre dans un trottoir. Aller accéder au magasin parce que il y a une marche qui est trop haute, donc ils peuvent pas y aller, donc ils se sentent privés d'une certaine liberté.
Tiens, parlons de cette notion d'accessibilité. Un retard qui est constaté, qui est observé, et pour rattraper ce retard, la solution qui est reprise dans vos colonnes parle d'un agenda d'accessibilité programmé. Qui est à l'initiative de cet agenda?
Lié à l'action des différentes associations. Ici, dans les termes les plus connus sont l'APF et la PAJH. Ce programme, voilà, permet aux collectivités et aux propriétaires d'établissements recevant du public, de faire une programmation pluriannuelle, en précisant la nature et le coût des travaux, donc, pour la mise en accessibilité de l'établissement en question. C'est un dépôt qui doit être fait avant le 27 septembre 2015. C'est assez proche, il va falloir qu'il fasse vite, même si après le plan, lui, est pluriannuel, donc là, peut concerner plusieurs années à venir. Mais voilà, pour ce qui est du dépôt de l'agenda d'accessibilité programmée, donc ce nouveau programme qui est mis en place, il y a 6 mois. Quoi.
Sur un autre sujet, dans le Tarn Actu du mois de mars, vous prenez l'exemple de deux entreprises tarnaises. Il y a Centre Tarn et deux Andy entreprises tarnaises qui viennent d'être primées. Quelle est la situation du Tarn face à l'emploi des personnes handicapées? Et parlez-nous un peu de ces entreprises tarnaises que vous avez mis en avant dans le Tarn Actu magazine.
Alors, la situation du Tarn, parce que le Tarn met en aval ou en retard par rapport à d'autres départements. Ce qu'on constate dans le Tarn est constaté dans d'autres départements voisins ou pas. Le Tarn est à l'image de ce qui se passe en France. Après, voilà, il y a dans le Tarn comme partout ailleurs, mais voilà, c'est très bien que ça dans le Tarn aussi. Il y a des personnes qui agissent pour que les choses s'améliorent. Et ça améliore assez rapidement. C'est le cas de ces deux entreprises qui ont été récompensées par la région Midi-Pyrénées. Donc voilà, ils ont mis en avant, en embauchant des personnes en situation de handicap. Et voilà, donc ça passe aussi par rendre accessible le lieu de travail, et puis donc, ça permet également aux autres salariés d'intégrer une personne en situation de handicap le plus naturellement possible. Donc c'est bien aussi que les pouvoirs publics puissent de mettre en avant des entreprises qui font tout bouger les choses aussi.
Ben on va citer les deux entreprises tarnaises qui viennent d'être primées donc par la région Midi-Pyrénées. Il s'agit de Les Ruchiers de Cocagne de Géroussens et Atelier du Bois de Puy-Gouzon. Puis il faut souligner aussi que la loi du 11 février 2005 définit le handicap comme étant toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives, psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Et en France, c'est près de 16% de la population qui vit en situation de handicap. Un chiffre que vous étayez dans le numéro de mars du Tarn Actu. Et puis, en page 20 du magazine, vous revenez sur le bus du futur, développé par l'entreprise albigeoise Safra, le bus Innova, inauguré à Gaillac il y a un mois. Vous avez eu des retours depuis le lancement de ce bus à Gaillac?
C'était pas un lancement officiel. Dans la rue de Gaillac, il n'y a pas encore le bus Innova, c'était une présentation. Gaillac sera la première ville de France à recevoir ce bus du futur que développé, comme vous l'avez dit, la société albigeoise de Safra. Avec la municipalité, la Safra a organisé une journée pour montrer le bus à la population. Dans cette journée, les Gaillacois, les Gaillacoises, ou les gens qui étaient à Gaillac à ce moment-là, ont pu découvrir de visu ce bus. Donc, on entend parler depuis plusieurs années, parce que ça fait 4 ans maintenant que l'entreprise a lancé ce projet. Les gens ont pu vraiment voir à quoi il ressemblait et comment il fonctionnait.
Quelles sont les particularités de ce bus que finalement les Gaillacois attendent maintenant?
Alors, c'est un bus du futur, comme on dit, donc avec en fait une motorisation multi-hybride qui le rend très propre. C'est aussi un bus a un design assez attractif, qui change des bus traditionnels qu'on a l'habitude de voir dans les villes tarnaises. C'est un bus propre qui est le fruit d'un très long travail technique sur les différents chefs de projet. Et puis c'est un système qui rend un peu le transport intelligent et propre.
En page 22 du Tarn Actu Magazine du mois de mars, vous nous faites découvrir des photographes toulousains, chasseurs d'orages, qui exposent leurs clichés à Gaillac.
C'est une exposition qui est proposée au Muséum d'Histoire Naturelle de Gaillac jusqu'au 26 avril. Donc l'exposition Le Ciel dans tous ses états, et donc qui met en avant le travail de trois photographes, donc il y a Florian Calas, Mathieu Krieger et Maxime Daviron, qui sont ce qu'on appelle des chasseurs d'orage, qui sont intéressés par ces phénomènes météorologiques par rapport à l'image que ça peut rendre. Et du coup, en visitant cette exposition, on peut voir de magnifiques photographies d'éclairs, de gros nuages, de ce qu'on peut voir pas toujours, mais presque de ce qu'on peut voir, mais eux savent le rendre sur une photographie. C'est une très jolie exposition qui fait que là, au moins, on est attiré par l'orage plutôt que d'aller se mettre à l'abri très vite.
C'est jusqu'au 26 avril l'exposition Le Ciel dans tous ses états au Muséum d'Histoire Naturelle de Gaillac.
CFM, le MAG, tous les jours,
12h, 12h30,
la vie du pays Gordais.
Parlons maintenant de l'édito du MAG que vous rédigez. Je l'ai gardé pour la fin parce que c'est un sujet qui intéresse énormément les départementales. Toi, tu es sur le terrain. Quel est ton ressenti à l'approche des élections du 22 et 29 mars prochain? Il fait trop beau ou qu'est-ce qui se passe avec ces élections? Pourquoi est-ce qu'elles n'intéressent pas?
C'est le phénomène qu'on peut constater. C'est pas le sujet de discussion dans les cafés ou sur les marchés. C'est ce qu'on pense que ça va venir. On l'a vu lors de l'élection précédente, même pour les municipales, trois semaines, un mois avant les élections, pas grand monde en parlait. Et puis, finalement, après, une fois que vraiment la campagne est lancée, ça commence à intéresser les gens. Après, c'est vrai qu'il y a un énorme travail pédagogique, je crois, qui reste à faire. Ce qui est malheureux, c'est que on est quand même à peine 15 jours, presque 22 jours de ces élections. Et en fait, on se rend compte que du coup, les gens, en fait, n'ont pas encore bien compris les enjeux de ce scrutin. Là, il y a des nouveaux cantons, qui maintenant c'est un binôme, il y a la parité. Il y a plein de phénomènes qui entrent en jeu avec cette élection pour la première fois. Et du coup, on se rend compte que les gens ne savent pas vraiment comment pour qui et pourquoi ils vont voter.
Tu as suivi le redécoupage des cantons. Quel était son objectif officiel?
Le redécoupage avait été fait l'année dernière. Ça avait provoqué un large débat au sein de l'Assemblée départementale quand la préfète était venue le présenter. Le redécoupage, en fait, prend en compte la population. Dans le sens où ils ont découpé les cantons pour que tous les cantons aient à peu près la même population. Alors, ça tourne aux alentours de 17 ou 18 000 habitants. Alors, il y a des cantons qui, du coup, comme Albi, où c'est forcément que quand c'est, du coup, c'est pas très grand en surface pour avoir cette population-là. Et par contre, il y a d'autres cantons qui sont beaucoup plus grands. Le canton des vignes de Bastide, ça part de Mévins, juste à côté de Sulpice, et ça va jusqu'à Cahuzac-sur-Vair, Castelnau-Montmiral, il y a une terre d'eau que ça va de Murat-sur-Vèbre, sur-Vèbre à la Crouzette. Après vous avez Carmaudeau à la vallée du Sérou qui va de Blaye-les-Mines à peine, donc c'est un redécoupage qui j'ai envie de dire n'a pas satisfait grand monde, mais il est là, il faut faire avec, et puis maintenant il faut aux gens à voir un peu dans quel niveau canton ils sont, parce que forcément il y a des communes qui elles ont changé.
Donc officiellement, pour des raisons, on va dire, démographiques, et officieusement, ton avis de journaliste?
Après, au moment du débat, beaucoup pensaient que c'était un redécoupage dit électoral. Après, le redécoupage électoral, on en entend parler à chaque fois qu'il y a des redécoupages. C'était la même chose quand il y a eu des redécoupages pour les circonscriptions, pour les législatives, qui avait été fait par la droite, et donc la gauche avait parlé de redécoupage électoral. Là, ça a été plutôt fait par la gauche, et donc la droite dit que c'est pour arranger les affaires de l'un ou de l'autre. Après, il y a qu'au moment du résultat qu'on verra si ça a été favorable à l'un ou à l'autre. Et puis après, il reste à voir si ça vient du redécoupage ou des projets qui ont été proposés ou des hommes qui se sont portés candidats.
Inédit dans l'histoire de la République, je crois, c'est la parité obligatoire pour les binômes candidats titulaires et leurs suppléants. Et il n'y a pas que ça qui change dans le mode de scrutin.
La grande particularité de ces élections départementales, la grande nouveauté, effectivement, c'est la parité. C'est-à-dire que maintenant, les gens votent pour un binôme, donc un homme, une femme, et les remplaçants sont un homme, une femme. L'homme en remplaçant homme, la femme en remplaçant femme. Et donc, on est mis pour le binôme, hein, voilà, il faut pas, sur le bulletin de vote, il faut pas dire je veux les deux femmes ou je veux les deux hommes, ou voilà, c'est que l'homme ou que la femme, là, c'est voilà, il faut voter pour les deux, voilà, il n'y a pas de la personne à barrer ou à remplacer. Et après voilà, le mode de scrutin, voilà, donc des scrutins majoritaires à deux tours, hein, voilà, ça c'est habituel. Pour être au second tour, voilà, il faut avoir fait 12,5% des électeurs inscrits. S'il y en a deux, qui, voilà, quand il y en aura deux, voilà, les deux en tête, ou avoir fait 12,5% des électeurs inscrits. Donc je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de triangulaires pour le second tour.
À l'échelle nationale, on prédit un score du Front National qui va tout casser, surprendre, pas surprendre. Quel est ton sentiment dans le Tarn par rapport à la montée que l'on annonce du Front National?
Après, le Front National a réussi pour ses élections à mettre des candidats sur tous les cantons. Et fort de leur percée au moment des municipales, ils ont fait un excellent score aux élections municipales, ils ont de nombreux conseillers municipaux, même dans les Tarn. Donc je pense que l'élection départementale, voilà, n'échappera pas au Tarn, pour ces élections départementales, n'échappera pas à l'environnement national. Je pense que le Front National fera un score très important pour le premier tour. Et du coup, je veux dire que du coup, pour les autres, du fait qu'il n'y aura pas beaucoup de triangulaires, l'enjeu sera surtout d'être en deuxième position pour que derrière, en cas de front républicain, les voix des adversaires se portent sur le candidat non Front National au second tour.
Qu'est-ce qui sera important finalement à analyser dans ces résultats? Le taux de participation, d'abstention ou le score des partis d'extrême, qu'ils soient de droite ou de gauche?
Après, il y aura un peu tout. Je crois que le taux d'abstention sera à observer, évidemment, parce que il y a quelques semaines, au mois de janvier, après les événements de Paris, tout le monde parlait d'unité nationale, voilà, qui allait défendre la République qui était en danger. Et donc voilà, ben on va voir si entre guillemets par ces élections les faits voilà, se concrétisent, de voir si ce mouvement citoyen du mois de janvier aura une suite électorale. Après voilà, ça c'est le taux d'abstention, ça sera forcément à observer. Après, il y aura évidemment à observer les scores des candidats de la majorité actuelle. Vous savez que les événements de Sivens, voilà, ce dossier-là est rentré dans la campagne électorale. Et donc, voilà, il faudra voir un peu de quelle manière ça va se traduire sur les votes. Et après, évidemment, il y aura le pourcentage du Front National qui verra s'il a encore progressé par rapport au municipal ou s'il se stabilise.
Merci Roland de Tarn Actu pour toutes ces précisions. Je rappelle donc le Tarn Actu, magazine en ligne mensuel sur l'actualité du département. Tu nous rappelles où et comment on trouve ce magazine mensuel?
Alors le magazine, voilà, c'est très simple. Il suffit d'aller donc sur le site tarnactu.fr. Et il y a un onglet voilà, magazine sur lequel voilà, vous pouvez lire ou télécharger le magazine sur votre ordinateur ou tablette. Et puis comme ça, voilà, vous pouvez le lire tranquillement chez vous sur l'ordinateur ou sur la tablette au rythme où vous voulez.
Puis le magazine traite de différents sujets, qu'ils soient de société, des sujets de sport, de politique, locale, nationale aussi, avec des éclairages sur d'autres dossiers. Il y a également un agenda culturel complet sur tous les événements du mois à venir. Merci Stéphane, et puis on se dit au mois prochain.
Pas de soucis, merci beaucoup.
CFM, c'est le MAG, la vie du pays cordais.
Juste après le flash info de midi et demi, le MAG, la suite avec une émission spéciale départementale. Aujourd'hui, c'est la liste Front de gauche du canton Carmaux, Vallée du Céroux, conduite par M. Saint-Andrés Thierry et Mme Strauch-Léonore, les candidats titulaires. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.